Arcagna, Jacques Lavergne, bonjour. Arcagna, l'émission résiliente, c'est une triste chose de songer que la nature nous parle et que le genre humain ne l'écoute pas, Victor Hugo, déjà. Vous savez tous, d'abord bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie, vous savez tous qui est Antonio Guterres, c'est le secrétaire général des Nations Unies depuis 2017. Alors les Nations Unies, c'est quelque chose qui est à la fois très puissant, gros budget, des casques bleus, des institutions comme le GIEC, 193 pays, la quasi-totalité des pays de la planète. Et le 5 juin, il y a eu la Journée mondiale de l'environnement. C'était il y a quelques jours seulement. Et Antonio Guterres a parlé, il a même parlé très longuement. Son discours est d'ailleurs tout à fait accessible, on le trouve sur le net. Et ça fait des années qu'il aborde ce sujet, qu'il l'aborde de plus en plus fort. Et notamment, il a prononcé les phrases suivantes. « Nous jouons à la roulette russe avec notre planète. Non seulement nous sommes en danger, mais nous sommes le danger. » Il commentait en cela les résultats d'une toute récente étude scientifique, puisque la Terre vient de connaître les 12 mois les plus chauds jamais enregistrés. Par rapport à l'ère pré-industrielle, le réchauffement a atteint 1,43 degré centigrade de plus. Alors, on a eu l'accord de Paris, dont on s'est gargarisé, signé en 2015 par tous les pays de l'ONU, qui se donnait, je vous le rappelle, pour objectif premier, de ne jamais dépasser le seuil des 1,5 degré. Eh bien, on y est presque, hein, avec 1,43. Alors, pour rester au-dessous du seuil, a dit Guterres, il faudrait que les émissions mondiales diminuent de 9% par an jusqu'en 2030. Pas de chance, elles ont augmenté l'année dernière, elles ont augmenté de 1%. Et Guterres de rajouter, nous sommes aux portes de l'enfer climatique, vous voyez, il emploie des mots qui sont quand même forts, les 1% les plus riches émettent autant que les 2/3 de l'humanité, et il a dénoncé les acteurs du secteur des combustibles fossiles qui nous plombent, font de l'éco-blanchiment, et l'an dernier n'ont investi que 2,5% de leurs dépenses d'équipement dans les énergies propres. Et alors, que se passe-t-il? Eh bien, oui, on continue de prendre la bagnole pour un oui ou pour un non, l'avion de plus en plus souvent, on y reviendra peut-être en fin d'émission. Oui, on hausse les épaules, certains en tout cas, devant les manifs contre l'A69, cette autoroute qui devrait relier Toulouse à Castres et qui est une aberration complète. L'Europe vient de raboter son pacte vert, Macron rabote ses mesures vertes. Personne n'a parlé d'écologie pendant la campagne européenne, même pas vraiment les Verts, on a vu d'ailleurs où ça les a menés. Et Antonio Guterres continue de s'égosiller dans le vide, il n'est pas le seul, mais nous continuerons à parler de ces questions et à vous informer sur la situation. Et justement, pour éclairer la question météorologique, bien, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Alexandre Floutard, qui est ingénieur météorologue. Alexandre Floutard, bonjour.
Bonjour.
Il a certainement beaucoup de choses à nous apprendre sur ce thème-là. Alors, bon, Alexandre Floutard, on ne comprend plus trop ce qui se passe, hein. Plus jamais et plus que jamais, la célèbre formule « il n'y a plus de saison, ma bonne dame » est d'actualité. Mais est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'il n'y a pas eu à différentes reprises et époques ce même phénomène? Sachant que seule une observation sur le temps long permet d'avoir un avis équilibré. Comment vous réagissez, Alexandre Floutard, aux déclarations quand même très, très rudes d'Antonio Guterres?
Oui, alors effectivement, il y a Le climat, comme vous l'avez très bien précisé, qui a toujours changé, le climat n'est pas réglé. Ce qui est nouveau depuis ces dernières décennies, c'est que c'est l'homme qui est devenu un forçage pour le climat. C'est l'homme qui, du fait de toutes ces exploitations, notamment de ces énergies fossiles, eh bien, contribue à avoir un impact significatif au point de modifier le climat à une vitesse inédite pour l'homme et puis depuis des temps extrêmement longs. Hein. Donc c'est la vitesse de cette modification qui est inédite et effectivement les mots qui ont été prononcés sont faits, j'espère qu'ils peuvent avoir un impact dans l'esprit des gens. Ils sont forts mais ils sont hélas... justifié par les événements qu'on observe un peu partout sur toute la planète depuis déjà quelques années et de plus en plus souvent et de plus en plus fort.
Ce qu'on appelle donc l'action anthropique, l'action de l'homme, parce que là il y avait eu, on l'a vu, hein, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il y a eu des variations au cours des années sur le climat, mais comme vous le précisiez, sur des temps extrêmement longs et qui n'étaient pas du tout causés par l'homme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On voit des grands incendies, on voit des vagues de chaleur, on voit des inondations fabuleuses, on voit des pluies abondantes et surtout durables sur une même région. On a vu ce qui s'est passé pour ne retenir que la France dans le nord. On voit des orages extrêmement violents, on voit des tornades, on voit des glaciers qui fondent. Comment vous expliquez tout ça ? Pour vous, il ne fait aucun doute que c'est l'influence de ces modifications climatiques ?
Alors oui, globalement, toute la communauté scientifique qui se penche sur le sujet depuis des décennies est de plus en plus d'accord. C'est ce qu'on appelle le consensus scientifique. Et il est proche aujourd'hui de 100%. Il tend vers 100%, mais en tout cas, c'est un consensus extrêmement fort sur le fait que les impacts du changement climatique sont liés à l'action anthropique. Ce phénomène est sans équivoque. Donc aujourd'hui, il ne devrait plus y avoir de débat sur l'origine de ce réchauffement. Il est clairement lié aux activités humaines.
Alors s'il n'y a plus de débat sur l'origine, comment on peut expliquer le phénomène ? Comment l'homme arrive à modifier le climat sur la planète entière ? On a un peu l'impression que ce climat, c'est un château de cartes en réalité. Et même d'ailleurs, le fonctionnement global de la planète, c'est un château de cartes. Dès que l'on touche des éléments, tout menace ruine. Est-ce que c'est votre sentiment d'ingénieur et de scientifique ?
Le climat, il évolue suivant ce qu'on appelle des forçages extérieurs, des paramètres qui, ça peut être les variations de l'orbite terrestre, la distance de la Terre autour du Soleil qui suit des cycles de plusieurs dizaines de milliers d'années. Il y a aussi l'activité solaire, il y a les volcans, il y a tous ces paramètres-là qui évoluent de façon plus ou moins cyclique et qui rythment un peu depuis quelques centaines de milliers d'années, à grande échelle, les variations du climat. Et donc, comme je le disais en début d'émission, ce qu'on a modifié de façon extraordinaire, c'est la concentration des gaz à effet de serre, qui, de base, est un phénomène naturel. Hein, l'effet de serre, ce sont tous des gaz qui entourent notre planète, qui sont des constituants de l'atmosphère, parfois à des concentrations très faibles, comme par exemple le CO2, qui est à un pourcentage très faible par rapport à tous les autres gaz, mais qui a un impact assez puissant pour retenir la chaleur qui va s'évacuer de la Terre. C'est un peu ce qu'on peut appeler aussi l'effet couette. Et donc cet effet de serre naturel, il permet quand même, il a permis à la vie de se développer. Sans lui, on aurait une Terre gelée. On serait dans une température autour de moins 19 degrés en moyenne. Et grâce à lui, on a une vie actuelle avec des températures de l'ordre de 15 degrés. Le problème, c'est lorsqu'on va amplifier ce phénomène en rajoutant des gaz à effet de serre, notamment du CO2, mais pas que. Et donc, la chaleur qui va être retenue par la Terre, par cette couche de gaz, va s'amplifier au fur et à mesure que la concentration de ces gaz augmente. Et donc la température augmente, et ce qui bouleverse par effet boule de neige les équilibres climatiques qui étaient plus ou moins stables avant la modification de l'homme. Donc en fait, plus on injecte de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus la Terre, pour se mettre à équilibre, va augmenter sa température et ainsi de suite modifier tout un tas d'équilibres qui étaient stables avant la modification de l'homme.
Alors ces gaz à effet de serre, ils viennent d'où finalement? Il y a le CO2, il y a le méthane, il y en a un certain nombre d'autres. Qu'est-ce qui les produit? L'homme, on le sait, mais à travers quelles activités?
Alors juste pour rappeler avant, merci de rappeler les différents gaz à effet de serre. Le principal, c'est la vapeur d'eau, qui est lui tout à fait naturel, et c'est le principal gaz responsable de l'effet de serre. Par contre, il se régule de façon naturelle avec les pluies et il ne peut pas s'accumuler directement, enfin indéfiniment, dans l'atmosphère.
Quand on regarde un avion passer dans le ciel et qu'on voit une traînée blanche, est-ce que c'est de la vapeur d'eau?
Alors oui, il y a de la vapeur d'eau, oui, entre autres, et autres constituants, mais il y a surtout de la vapeur d'eau qui se condense. Et en fait, voilà, ça participe à injecter un peu de vapeur d'eau. Mais comme je disais, la vapeur d'eau, elle est limitée dans l'atmosphère par la température de l'air. Donc elle ne va pas pouvoir s'accumuler indéfiniment, elle va retomber quelques jours après, pas forcément à l'endroit où elle a été émise, mais sous forme de précipitation. Il y a un équilibre qui se fait entre la vapeur d'eau émise et les précipitations qui se font.
Alors pour le béotien que je suis, la différence entre la vapeur d'eau et un nuage?
Alors la vapeur d'eau, c'est invisible, tout simplement.
On la voit, on parlait des traînées des avions.
Alors les traînées, en fait, quand on les voit, c'est que la vapeur d'eau s'est condensée autour de micro-particules, qu'on appelle les noyaux de condensation, qui permettent à l'eau de se condenser sur un support. Et du moment où cette vapeur d'eau se condense, elle va former un petit nuage. Et donc, d'où ces traînées de condensation qui sont comme des formations de nuages à l'arrière des avions, qui sont plus ou moins persistantes si l'air est sec ou humide.
Après, on a beaucoup parlé de l'aéronautique, il n'y a pas que l'aéronautique. Quelles sont les autres activités qui dégagent? On parlait de l'agriculture. On sait qu'un certain nombre d'activités industrielles, par exemple fabrication du ciment, etc., le béton, tout ça produit énormément de CO2. La bagnole, nous avons le président de la République qui nous a dit qu'il était amoureux de la bagnole, mais peut-être aurait-il mieux fait de retenir sa langue, comme souvent. On a d'autres activités de ce style?
Alors, le principal, globalement, ce qui va libérer des gaz à effet de serre, et notamment le CO2, ça va être la combustion des énergies fossiles, c'est-à-dire tout ce CO2 qui est enfermé, enfin, tout ce pétrole, le gaz, le charbon, qui est enfermé depuis des millions d'années dans le sous-sol de la Terre, et qu'on extrait, nous, en quelques années.
Le bois aussi.
Et le bois. Hein? Alors le bois, c'est un peu plus différent parce qu'il y a une échelle de temps qui est beaucoup, un peu plus courte, quoi. Mais c'est surtout toutes les énergies fossiles qui sont stockées, qui ont mis des millions d'années. Pour former le pétrole, il faut des millions d'années. Le charbon, c'est pareil. Le gaz aussi. Et nous, on extrait cette quantité de gaz, enfin d'énergie fossile en quelques années. C'est un temps considérablement court au regard de l'échelle de temps qu'il a fallu pour le former. Et donc, c'est cette combustion-là qui libère notamment du CO2 sur une échelle de temps très courte, et donc la concentration qui a augmenté quasiment de presque 50% depuis l'époque pré-industrielle.
Dans ces grands équilibres que l'on bouscule, il y a des courants, alors El Niño, La Niña. Je me tourne vers mon ami Jean-Luc Palévody, qui est aussi intéressé que moi, pour savoir d'abord quelle est la différence entre les deux, comment ça marche et à quoi ils servent.
Alors le phénomène El Niño et La Niña, qui sont en fait deux phénomènes liés, dans un seul phénomène qu'on appelle l'oscillation de l'océan Sud-Pacifique, et l'océan Austral. Et donc, en fait, qui est un phénomène naturel, qui fait partie d'un phénomène de variabilité interne du climat, c'est-à-dire qu'il apparaît, il disparaît comme ça, de façon cyclique, sur quelques années, environ entre 5 et 10 ans, on va dire. Et donc, successivement, on a des phases El Niño, où les eaux du Pacifique équatorial sont déplacées vers la partie ouest de la zone équatoriale. Et donc, on a une modification des précipitations et des centres d'action qui sont associés.
Alors, le Niño, il part d'où et il va jusqu'où? C'est un courant en boucle?
C'est en fait une zone, une poche d'eau chaude qui va se déplacer sur la tranche équatoriale du Pacifique, ouais. Donc entre l'Amérique du Sud et puis l'Indonésie, l'Australie. Et donc, cette eau chaude se déplace vers l'ouest pour les phénomènes... vers l'est, pardon, pour le phénomène Niño. Et donc, ça implique des fortes pluies sur les côtes péruviennes. Ça est, au contraire, un temps beaucoup plus sec sur la partie ouest. Et l'inverse de ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la Niña, où au contraire, les eaux vont se déplacer dans l'autre sens et on aura plutôt des conditions froides sur les côtes péruviennes.
Donc, en réalité, c'est toujours la même poche, El Niño et la Niña, mais en fonction de là où elle se trouve, de ces déplacements, on a des phénomènes complètement opposés.
Voilà, oui, et ça a des conséquences un peu sur des phénomènes à l'échelle planétaire, et notamment sur la répartition des précipitations autour de ces zones dont on a parlé. Mais globalement, ça a une influence aussi sur la température terrestre. C'est-à-dire que la surface concernée est quand même relativement grande à l'échelle planétaire, même si ça reste localisé sur l'océan Pacifique, au niveau équatorial, ça impacte fortement la température globale durant le phénomène El Niño. On a quelques dixièmes de degrés en plus pendant quelques mois à l'échelle planétaire. Voilà. Mais c'est un phénomène qui est naturel, qui est cyclique et qui s'est produit déjà depuis très longtemps et qui reste là. Il ne fait que se superposer au changement climatique.
Donc ça veut dire que l'homme n'a pas d'action positive ou négative sur ce phénomène.
Alors c'est deux phénomènes qui vont s'ajouter ou se compenser. L'homme indirectement.
Il le subit, mais sans. Oui. C'est pas son action. On parlait de l'action anthropique de l'homme tout à l'heure. C'est pas cette action anthropique qui va provoquer les déplacements de cette masse d'eau.
Non, c'est vraiment un phénomène naturel lié à la variabilité de l'océan Pacifique.
Donc on a quand même ça a des impacts extrêmement importants. Il y a eu une année, je crois, c'était El Niño ou la Niña qui était. Il y a eu des centaines, des milliers de morts à la suite de son déplacement. C'était il y a 150 ans, je pense, à peu près.
Bien sûr, parce que ça affecte, par exemple, sur les côtes péruviennes. Eh bien, lorsque l'eau est froide, ça permet à des nutriments qui sont présents dans les couches océaniques de remonter plus vers la surface et donc de favoriser la présence de poissons. Les Péruviens vivent beaucoup de ça et donc la pêche est bonne. Et au contraire, pendant les années El Niño, où l'eau chaude reste en surface de ce côté-là, elle bloque les nutriments océaniques dans les couches de profondeur, ils ne remontent pas en surface. Et donc, les conditions de pêche sont beaucoup plus pauvres, en fait. Et ça impacte forcément le niveau de population. Voilà, il y a tout un tas d'impacts, d'effets d'El Niño qui peuvent être désastreux ou, au contraire, bénéfiques pour les populations. Mais ça a toujours existé, en fait.
Et j'ai lu dans la presse, ou même entendu, que le continent européen se réchauffait beaucoup plus vite que le reste de la planète. À quoi c'est dû ?
Alors, juste pour rebondir un peu sur le phénomène El Niño, il faut savoir qu'il n'a pas beaucoup d'impact, ou en tout cas c'est très très négligeable à l'échelle de l'européenne. Par contre, alors effectivement, l'Europe est un des continents qui se réchauffe le plus vite. Pour un réchauffement actuel au niveau global, on est à plus 1,2 degré par rapport à l'époque pré-industrielle. Et sur l'Europe, on est à plus 2,2 degrés. Et en France, on est à plus 1,8 degrés. Donc, sur l'Europe, en fait, il y a les continents se réchauffent plus vite que les océans parce que l'inertie thermique, elle est plus faible sur les continents. Ils absorbent plus vite l'énergie. Mais après, il y a aussi des changements au niveau de la circulation atmosphérique qui peuvent expliquer une récurrence de ces conditions anticycloniques qui vont faire qu'on a une prédominance de conditions chaudes sur l'Europe et l'Europe de l'Ouest en particulier. Donc il y a plusieurs effets qui vont se combiner. Il y a à la fois l'effet d'augmentation de température générale et en plus cette répartition de la circulation atmosphérique qui va favoriser les conditions anticycloniques stables et chaudes sur l'Europe de l'Ouest. Donc ça peut expliquer en partie pourquoi l'Europe se réchauffe un peu plus que les autres continents. Après, il y a aussi d'autres phénomènes qui sont encore un peu mal compris. Il n'y a pas encore de consensus sur certains phénomènes, mais voilà, en tout cas, effectivement, l'Europe de l'Ouest se réchauffe plus vite que le reste.
Donc, on est beaucoup plus en danger que d'autres secteurs de la planète, d'autres populations.
Alors après, le danger, voilà, ça va dépendre de plusieurs phénomènes. Il y a l'aléa climatique et il y a aussi la vulnérabilité des populations. Nous, on a de la chance en Europe à être des pays plutôt riches, donc on va avoir une vulnérabilité qui est moindre. Néanmoins, on est quand même soumis à tout un tas de conséquences du changement climatique, à savoir les vagues de chaleur, qui ont quand même des impacts importants sur le nombre de décès. Déjà en 2023, on a eu quand même 5 ou 6 000 décès de plus liés à la vague de chaleur qu'on a eue au mois d'août. En 2022, il y a eu aussi eu plusieurs milliers de morts. C'est pourtant un continent qui est quand même riche. Mais malgré tout, ça montre qu'on n'est pas préparé à ce genre de situation.
Oui, la richesse n'empêche pas la mort. Voilà. On fait une première pause musicale. Alexandre Floutard, c'est vos choix. Vous nous emmenez à la campagne. L'hymne de nos campagnes.
Voilà, c'est vrai, c'est une chanson que j'écoutais pas mal étant ado. Donc,
c'était hier, ça, c'est pas...
Ouais. Merci. Mais en fait, ça permet... Si on écoute bien, ça dit qu'il faut, voilà, qu'il faut pas se cantonner, il faut sortir aussi dans la nature pour voir ce qui se passe. Et en fait, la vie est là devant nous. Et c'est un équilibre qui a mis des millions d'années à se créer et qui est finalement assez, assez fragile, mais qu'on modifie un peu les conditions.
Et terriblement menacé. On écoute l'hymne de nos campagnes.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème, en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite,
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas,
ici tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre, dis-toi qu'au bout il y a la mer
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tout les animaux, que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau,
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Voilà, l'hymne de nos campagnes par trio, le choix de mon invité Alexandre Floutard, l'ingénieur météorologue qui essaye aujourd'hui de nous en apprendre un peu plus sur ce qui se passe sur notre planète et pourquoi ça se passe. Alors, nous étions, on s'était arrêté El Niño, La Niña. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle un peu des vents. Bon, à Toulouse, on a le vent d'autant, mais le système des vents est beaucoup plus complexe. Qu'est-ce qui crée le vent ?
Alors, le vent, à l'origine, c'est tout simplement un rééquilibrage entre des différences de pression. Par exemple, vous avez sur la Terre, des anticyclones et des dépressions qui sont réparties, hein, c'est-à-dire des hautes pressions et des basses pressions. Et le vent, en fait, tend à combler ces déséquilibres de pression. Et si on rajoute une contrainte forte, qui est que la Terre tourne, donc ça oriente les vents, en fait, avec, dans l'hémisphère nord, les basses pressions à leur gauche et les hautes pressions à leur droite. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut trouver dans Surface, où tout le monde est un peu familier avec les cartes météorologiques du soir, où on montre les A pour anticyclone et D pour dépression. Ensuite, il y a des vents qui vont plus généralement dicter les conditions météorologiques, surtout dans les moyennes latitudes, qu'on appelle les jet streams, les courants jet.
Ils sont très hauts, ils sont à 10 km, je crois, au-dessus voilà. de notre tête, globalement.
Entre 10 et 12 km ouais. en moyenne, et donc eux qui sont liés plutôt à la différence de température entre les tropiques et le pôle nord, on va dire, hein, entre les hautes latitudes et les basses latitudes, puisque les hautes latitudes reçoivent plus de soleil que les pôles, donc ça crée un déséquilibre thermique avec une chaleur plus importante sur la ceinture tropicale et un déficit de chaleur contraire vers les pôles. Donc on a en fait un excédent d'énergie au niveau équatorial et un déficit dans les pôles. Donc pour combler un peu ce déficit, sinon les pôles se refroidiraient sans cesse et l'équateur se réchaufferait sans cesse, eh bien il faut des mécanismes qui permettent de rééquilibrer un peu ces niveaux, en tout cas d'atténuer les différences entre ces deux. Et donc, c'est le rôle des courants jet qui vont tourner. Donc ce sont des vents d'ouest, autant dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud.
Ça veut dire d'ouest en est ?
D'ouest en est, d'accord. Exactement. Et qui vont tourner à des vitesses quand même assez importantes. Là, on est à 10-12 km d'altitude. Donc, les vents, on est facilement autour de 200 km/h. Hein, ce sont des vents assez puissants.
Ah, est-ce que j'ai cru comprendre que ces vents avaient tendance à faiblir ? Donc, s'ils ont tendance à faiblir, ça veut dire aussi, peut-être, vous allez me le confirmer ou l'infirmer, ça veut dire aussi que les précipitations en sont affectées. Elles peuvent soit stagner sur un pays plus longtemps, ou soit ne pas y passer, ou ne pas s'y arrêter.
Alors, l'évolution du courant jet, elle a été soumise à débat pendant plusieurs années, parce qu'effectivement, il y a eu des études qui pouvaient montrer que le courant jet ralentissait. Et alors par contre, ces derniers temps, il y a des nouvelles études qui montrent plutôt une accélération du courant jet, en fait, en moyenne. Hein. Je parle évidemment, c'est en moyenne. Il a plutôt tendance à s'accélérer. Pourquoi ? Parce que effectivement, le pôle se réchauffe. Les pôles se réchauffent, notamment l'hémisphère nord, le pôle nord. Donc on pourrait penser que le contraste équateur-pôle a tendance à diminuer, mais en fait, les tropiques se réchauffent plus vite que ne se refroidit le pôle. Donc, on a plutôt un contraste qui a tendance à augmenter, et donc des vents moyens au niveau du jet qui vont s'accélérer. Et donc, on en a parlé ces derniers temps, ça a fait l'actualité sur l'augmentation des turbulences aériennes, là où on observe, c'est vrai, plus de turbulences sévères en altitude. Donc, dans les courants jet, hein, ce sont des couloirs de vent, des tapis roulants que prennent les avions, hein, parce qu'ils font des économies de carburant. Mais la contrepartie, c'est qu'on pourrait observer plus de turbulences à l'avenir, qui est liée à cette accélération de jet. Et alors, il y a aussi un autre phénomène qui s'observe. Alors là, plus en été, l'accélération, c'est plutôt a priori pour la période hivernale. Mais en tout cas, en été, on a autour de l'Europe ce courant jet qui a tendance à plus onduler, à plus devenir un peu sinueux comme ça. Et donc, dans les endroits où ce courant jet ondule, ça peut favoriser les situations de blocage, notamment sur l'Europe de l'Ouest, où on en parlait tout à l'heure. On a une récurrence d'anticyclones qui se forment sur l'Europe de l'Ouest, île britannique, qui pourraient être liées, donc qui sont liées, hein, fondamentalement, à cette ondulation de courant jet. Et donc, on peut avoir des situations de blocage qui persistent comme ça pendant plusieurs jours, voire un peu plus. Et donc, ça peut autant favoriser des vagues de chaleur si on est sous ce qu'on appelle un dôme d'air chaud, donc la partie chaudes, anticycloniques du courant jet, ou au contraire favoriser des descentes d'air un peu plus frais si on est dans la partie avec le flux de nord.
Donc ça peut expliquer la persistance de certains événements, tels que par exemple, je ne sais pas si c'est le cas, vous allez nous le dire, les pluies que l'on a observées dans le nord, hein, qui a été un peu noyée à une certaine époque, ou des immenses vagues de chaleur très puissantes qui persistent des jours et des jours sur un même pays. Ça vient des vents.
Effectivement, oui, oui.
C'est donc de ce fameux courant jet.
Oui, c'est lié, oui.
Donc ces variations du courant jet qui jusque-là circulaient à peu près tranquillement, est-ce qu'on peut les imputer à l'homme et est-ce qu'on peut les imputer au réchauffement, notamment des pôles ?
Oui, c'est ce que je disais. En fait, le fait que le pôle se réchauffe, alors les pôles se réchauffent plus vite que la moyenne globale, hein, ils se réchauffent 2 à 3 fois plus vite.
Et donc les glaces fondent, ce qui est aussi un autre problème.
Et donc les glaces fondent,
un autre problème.
Voilà, et en fait, ça crée un emballement. Hein, c'est-à-dire que les glaces fondant, la lumière du soleil est moins réfléchie par la surface de glace.
Et le permafrost, de toute façon, ne réfléchira aucune lumière, lui, une fois que les glaces seront fondues.
Le permafrost, alors oui, ça c'est un autre sujet aussi. Du fait de l'augmentation des températures, le permafrost a tendance à dégeler. Et libérer aussi un autre gaz à effet de serre qui est le méthane.
Qui est beaucoup plus puissant et nocif, enfin nocif pour l'environnement,
oui,
que le CO2.
Effectivement, il a un pouvoir absorbant de chaleur qui est beaucoup plus important. Par contre, il a une durée de vie qui est beaucoup plus courte. Donc voilà, donc il y a encore des incertitudes quand même sur la quantité de méthane qui pourrait être libérée sur ce permafrost. Mais dans tous les cas, ça va amplifier le réchauffement climatique. Et donc, ouais, on a ces pôles qui se réchauffent et qui pourraient diminuer le contraste entre les tropiques et les pôles. Mais effectivement, c'est plutôt les tropiques qui se réchauffent plus vite. Donc en fait, le courant jet a tendance plutôt à augmenter, quoi.
Oui, alors les vents, ils servent quand même à beaucoup de choses. Ils ont des conséquences importantes sur les êtres vivants, sur les animaux, sur l'homme aussi.
Oui, oui, oui. En fait, les vents ont leur rôle. Hein. Ils peuvent disperser les pollens. Ils peuvent, voilà. Enfin, ça
peuvent transporter du sable. Si on regarde ce qui se passe, par exemple, à Soulac-sur-Mer, le sable est emporté vers l'intérieur.
Oui, oui, oui. Alors, ça modifie les paysages. Ça participe à l'érosion. Alors là, sur des temps beaucoup plus longs. Mais sur les temps courts, effectivement, il y a des transports de sable. Et justement, on observe, c'est vrai, ces dernières années. Pas mal d'épisodes de ce qu'on appelle de sable saharien, qui ont fait pas mal de une dans les médias, et qui sont liés toujours à ces blocages, en fait. Alors, soit quand on a un flux de sud qui provient, ce qu'on appelle les gouttes froides, qui s'isolent un peu comme ça dans sur le proche Atlantique ou jusque sur l'Afrique du Nord, eh bien, ça soulève, avec le vent, ça soulève des quantités de sable qui peuvent atteindre l'Europe, voire même plus nord que ça, et ça transporte des quantités monumentales de sable, on l'a vu ces derniers temps, et puis ça aussi, ça peut jouer sur la fonte de neige, par exemple, en déposant du sable sur les surfaces enneigées, ça diminue le pouvoir de réflexion du soleil, et ça augmente l'absorption du soleil, et ça augmente la fonte de la neige. Voilà.
C'est le système de loi de Lorentz. C'est ça
Le papillon de Lorentz.
Oui, un peu, alors, oui, un petit souffle de vent sur la planète qui va nous déclencher une tempête ailleurs.
Alors, les déplacements de sable ont toujours existé. Hein, c'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un peu plus récurrent ces derniers temps.
Oui, surtout si les vents évoluent et ne fonctionnent plus de façon relativement linéaire comme il semblait que c'était le cas avant. J'imagine que tout ça va avoir un impact.
Oui, alors après, sur l'évolution du vent, on constate pas forcément d'évolution. Il y a une grosse variabilité, par exemple, sur les tempêtes. On n'observe pas plus de tempêtes qu'avant. Il y a une variabilité naturelle qui est très forte et il n'y a pas de signal dû, en tout cas, à l'activité humaine qui est détecté sur le nombre de tempêtes ou sur l'intensité des tempêtes.
Ces ouragans que l'on voit qui font peur, hein, quand on voit ça à la télévision, ça peut s'abattre sur une surface d'ailleurs un pays assez limité, mais c'est très destructeur. Est-ce que les vents ou l'augmentation de la température, ou peut-être les deux, jouent dans ce mécanisme ?
Bien sûr, tout à fait. Là, par contre, sur les ouragans, les systèmes tropicaux, ce qu'on observe, c'est Alors, pas une augmentation du nombre d'ouragans. Là aussi, c'est soumis à une forte variabilité selon les bassins océaniques. Mais il y a quand même une tendance qui se dégage et qui est imputable aux activités humaines, c'est le nombre d'ouragans de catégorie forte. Donc là, avec le réchauffement des eaux de surface, eh bien, les ouragans ont plus d'énergie, puisque la source d'énergie des ouragans, c'est vraiment la température sur la première couche du bassin océanique. Eh bien, si l'eau est plus chaude, ils auront plus d'énergie. Et donc, ça va se traduire comment ? Ça va se traduire par une puissance de l'ouragan qui est plus forte en termes de vent, autour de l'œil, par exemple, mais aussi en termes d'intensité pluvieuse. Donc, les ouragans qu'on observe actuellement sont plus forts et plus pluvieux.
Et donc, ça peut provenir aussi de ce qu'on appelle les canicules marines.
Oui, alors les canicules marines, oui, en fait, ça désigne l'augmentation de la température de surface à des niveaux, en tout cas récemment, là, on est vraiment sur des niveaux qu'on n'a jamais vus. On est, en fait, vous le disiez en début d'émission, hein, depuis, je crois, c'est mars 2023, on est sur des températures inédites presque chaque jour.
Oui, mais 2024 a été le mois le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, il faut quand même le savoir, avec une température mondiale, alors je l'ai sous les yeux parce que je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais qui est supérieure de 0,65 degrés centigrades à celle qu'il y a eu entre 2091 et 2020. Oui. Je crois que c'est le service européen Copernicus qui a donné ces chiffres-là.
Exactement. Alors, il faut savoir que ça paraît comme ça quand on dit une variation de moins d'un degré, ça paraît peu significatif, c'est peu parlant. Je veux dire, tous les jours, on a des variations de température qui sont de plusieurs degrés entre le matin et l'après-midi. Par contre, sur les niveaux d'eau, sur les températures océaniques ou sur les mers, là, la variabilité, elle est faible. Je veux dire, pour réchauffer une masse d'eau aussi gigantesque qu'un océan ou qu'une mer, il faut des quantités de chaleur absolument considérables. Donc une variation de 1 degré à l'échelle d'un bassin océanique ou d'une mer, c'est vraiment gigantesque.
Vous connaissez Carlo Buontempo ? C'est le directeur de Copernicus qui disait « Il est choquant mais pas surprenant que nous ayons atteint cette période de 12 mois, parce que pendant 12 mois consécutifs, depuis 12 mois consécutifs, nous atteignons des records de température. »
Oui, en fait, depuis mars 2023, on est sur des niveaux inédits, quasiment tous les jours, encore hier, justement, le 17 juin, on a eu le jour du mois de juin le plus chaud jamais enregistré sur Terre, depuis en tout cas le début des relevés. Donc oui, il y a les effets du réchauffement climatique qui sont une tendance de fond à l'augmentation, hein. Et superpose à ce phénomène des variations naturelles comme El Niño, qui a un effet pendant plusieurs mois d'augmenter la température de quelques dixièmes. Mais là, El Niño maintenant est fini, on est plutôt sur une orientation de La Niña. Et malgré tout, on observe quand même encore ces températures extrêmement élevées de façon globale. Alors en France, on ne s'en rend pas bien compte parce qu'actuellement, on est plutôt dans une période fraîche depuis plusieurs semaines. Mais voilà, il faut sortir un peu du comté, du périmètre français.
On a un peu frais, on met la veste. Au Pakistan, par contre, 26 millions d'enfants qui ne sont pas allés à l'école pendant au moins une semaine en raison de la canicule. Les températures dépassent chez eux entre 6 et 8 degrés centigrades de ce qu'elles devraient être normalement.
Voilà, c'est ce que
ils sont montés à 51 degrés, je pense.
Oui, il y a eu des températures extrêmes, même si l'endroit est quand même régulièrement soumis à des fortes températures, mais on est quand même là encore au-dessus on est nettement au-dessus des valeurs normales. Donc, si on regarde sur l'ensemble de la planète, si on fait le bilan des zones de température, les zones plus fraîches que la normale sont quand même minoritaires par rapport aux zones plus chaudes.
Et pour revenir à l'Europe et au pourtour de la Méditerranée, qui est une région qui se réchauffe beaucoup plus vite que le reste du monde, on en arrive à des sécheresses, hein, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'eau, à des sécheresses critiques, Sicile, Tunisie, Andalousie, et même d'ailleurs si on va pas très loin de chez nous, à Barcelone, on se rend compte que l'eau arrive à manquer rapidement, et l'eau, je pense que sans eau, l'homme ne peut pas vivre.
Exactement. Alors, c'est vraiment un phénomène qu'on constate surtout, donc, si on regarde chez nous, sur le pourtour méditerranéen, hein, donc, au sens large du terme, plutôt à l'échelle de l'Europe, je veux dire. On a un assèchement de ce bassin qui est de plus en plus important et de plus en plus régulier. Donc, on l'a vu en France chez nous, le département des Pyrénées-Orientales, hein, qui a subi une sécheresse inédite depuis 2022.
Marqué, bon, ils font des processions avec monsieur le curé et le Christ en tête. Ça, je ne sais pas, si ça s'apprend dans les écoles de météorologie.
Alors ça avait coïncidé, je ne veux pas dire que ça avait marché, ça avait coïncidé avec une période de pluie, je crois, l'an dernier.
Donc ça marche.
Donc, mais bon, c'est une coïncidence, bien sûr, mais sinon c'est un problème.
Homme de peu de foi.
C'est un problème au niveau de la ressource en eau, hein, tout simplement, parce que se pose la question de la priorité de l'eau.
L'eau sur la planète, on a un volume d'eau, c'est toujours le même. L'eau ne se crée pas. L'eau, elle est à l'état gazeux, ce sont les nuages. Elle est à l'état solide, ce sont les glaciers. L'état liquide, ce sont nos rivières, qu'elles soient de surface ou souterraines. Mais ce volume d'eau que nous avons depuis la création de la Terre ne s'augmente pas. Il est simplement réparti différemment.
Exactement. Le volume total, en fait, il reste le même. Sauf que c'est les réservoirs qui varient. L'eau qu'on a, qui est potable à la consommation, c'est l'eau douce. C'est pas l'eau salée. Donc, la diminution du réservoir qu'on a, il y a des populations qui dépendent totalement des glaciers. Avec la fonte estivale, ça leur permet d'avoir des ressources en eau. Si les glaciers diminuent, si les pluies diminuent, eh bien, on a un stock d'eau douce qui diminue, et oui, ça pose des problèmes au niveau de l'irrigation, au niveau de la consommation, voilà.
Donc si le pétrole a finalement modelé un peu toute la géopolitique du XXe siècle, est-ce que l'eau, ce sera le pétrole en termes de géopolitique au XXIe?
Je pense qu'il y a des endroits, c'est sûr en fait qu'il y a des endroits qui vont devenir très problématiques et qui
sont
déjà très problématiques.
Ça va s'augmenter, on va avoir des guerres de l'eau.
Bien sûr, ça va s'amplifier. Oui. En fait, tous les phénomènes qu'on observe déjà en ce moment vont s'amplifier. En gros, pour faire simple, il va pleuvoir plus dans les zones où il pleut déjà, il va pleuvoir moins dans les zones où il ne pleuvait déjà pas beaucoup. Donc les problèmes de manque d'eau ou au contraire de surplus d'eau, là je parle plutôt en termes d'inondation, éclairs, etc., vont s'amplifier, oui, à chaque incrément de degrés supplémentaires, même de demi-degré ou de dixième de degré. C'est pour ça qu'on parle de réchauffement, en fait, avec des chiffres au dixième près, parce que chaque dixième de plus multiplie l'amplitude et la fréquence des phénomènes extrêmes qui vont avoir des conséquences sur les populations. Donc, oui, ça va s'amplifier.
On a une réserve d'eau importante dans les pôles, on l'a dit. On en reparlera ici prochainement avec Lydie Lescarmontier, qui est glaciologue. Mais je sais que vous êtes allé un peu vivre dans l'Antarctique, comme le rappelait mon ami et camarade de radio Philippe Trousselard, qui est aussi autour de cette table. Cette expérience, qu'est-ce qu'elle vous a permis d'apprendre?
Alors, c'est une expérience hors du commun, où effectivement j'ai pu avoir la chance d'intégrer l'équipe scientifique et technique aussi, donc sur le continent antarctique. Je pense qu'effectivement, depuis mon retour de cette expérience-là, je suis un peu plus sensibilisé aussi au climat, parce qu'on se rend compte que même à des
météorologue
endroits...
qui n'était pas sensibilisé au
Alors,
climat.
Alors si, je l'étais, mais disons que je le suis revenu encore plus. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, même à des milliers de kilomètres où l'homme ne peut pas vivre dans ces conditions qui sont extrêmement hostiles pour lui, il y a un climat qu'on ne supporterait pas. L'homme, d'ailleurs, c'est le seul continent qui n'a pas été colonisé par l'homme. Donc, même à des milliers de kilomètres de là, eh bien, l'homme a un impact sur les populations d'animaux qui peuvent y vivre, qui se sont très bien adaptés à ces milieux. Donc, en fait, c'est quand même une claque de voir qu'à cet endroit-là, eh bien, on a quand même aussi une influence sur la vie des animaux. Quoi, à cette...
Philippe Trousselard, un mot?
Oui, Alexandre, on avait passé une heure ensemble sur cette expérience, sur la base de Dumont-d'Urville. Je crois que ce que vous venez de dire, moi, m'intéresse encore plus, parce qu'en fait, il y a derrière tout ça l'observation. On parlait tout à l'heure de la sixième extinction dans laquelle nous sommes engagés, l'homme en étant la cause. comment l'homme peut observer aujourd'hui. Il y a ces cinq sens, et pour moi, parmi les cinq sens, eh bien, il y a l'ouïe et la vue. Et je dirais que là-bas, la vue vous a beaucoup servi. Et j'ai souvenir d'un élément, vous relatiez en novembre 2016, bon, vous êtes arrivé en octobre, hein, fin octobre 2016, hein, si je me souviens bien, mais il était question d'une rupture hors norme et de fonte exceptionnelle. Alors je voulais vous demander, six ans après, vos successeurs qui ont passé, qui passent depuis un an finalement, un peu plus d'un an, est-ce que vous avez des éléments de leur part qui vous permettent de mieux encore quantifier cette évolution et cette fonte exceptionnelle?
Alors, effectivement, quand à l'époque où je suis allé dans l'Antarctique, on avait observé des conditions spéciales de banquise qui étaient en fait plus étendues que d'habitude et qui avaient du mal à débâcler. Et alors, il y avait plusieurs hypothèses qui étaient avancées. Il y avait le fait que la fonte de la calotte antarctique, donc qui est sur Terre, pouvait favoriser l'apport d'eau douce à la surface de l'océan, hein, autour du continent antarctique, eau douce qui gèle plus vite que l'eau salée, et qui peut, de façon contre-intuitive, faire une surface de banquise un peu plus étendue. Alors, il s'est révélé ensuite qu'il y a eu d'autres conditions qui ont fait que la banquise, à cet endroit-là en tout cas, a pu être plus étendue que d'habitude. Il y avait aussi des icebergs qui s'étaient bloqués, des gros icebergs qui influençaient la circulation océanique et qui pouvaient un peu protéger l'endroit de la Terre Adélie d'une débâcle qui pouvait empêcher la glace de se former. Depuis, les conditions ont changé. Et ce qu'on observe généralement en fait, autour de la banquise antarctique, c'est qu'elle commence à diminuer. Alors la tendance n'est pas encore significative, puisque il y a eu l'Antarctique est un peu protégé encore par, c'est un continent qui est très isolé du reste du globe et on n'observe pas de réchauffement net sauf sur la partie antarctique de l'ouest où là par contre la fonte des glaces est avérée et plus significative, alors que sur la partie est il y a pas vraiment de tendance qui se dégage, mais c'est imputable bien sûr aux activités humaines, et la tendance qui se dégage, c'est maintenant une baisse de la surface des glaces, bien sûr.
Donc ce qui est tout à fait inquiétant. Alors on parle déjà depuis un peu plus de trois quarts d'heure, et on dresse un tableau qui est quand même assez inquiétant. Où est-ce qu'on va là? Parce que fait l'homme pour essayer de freiner, sinon supprimer son impact sur les mécanismes essentiels de la planète? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, vous n'allez peut-être pas me répondre. Moi, je vais vous répondre. Il ne fait pas grand-chose, il ne fait même rien. Il feint de faire, mais il ne fait rien. On vient de le voir, j'évoquais les élections européennes où on n'a absolument pas parlé de ces problèmes-là. Les grandes compagnies gazières, pétrolières, il y a un excellent article dans le magazine Reporter sur Internet. Aucune de ces grandes compagnies n'a une politique climat alignée avec l'accord de Paris. Hein, il faut quand même le savoir. Les feuilles de route climatique des 8 grands producteurs internationaux de pétrole et de gaz qui sont basés aux États-Unis et en Europe, on peut les citer. Il y a BP, il y a Chevron, il y a ConocoPhillips, Eni, Equinor, ExxonMobil, Shell et Total Energy, ils ne font strictement rien aujourd'hui. Leurs plans actuels d'extraction de pétrole et de gaz sont alignés pour l'instant sur une trajectoire de réchauffement de plus de 2,4 degrés centigrades. Ce qui veut dire qu'on va vers un désastre écologique et humain majeur. Et sur regarde sur les 8 entreprises que je viens de citer, 6 ont pour objectif explicite, on peut le vérifier, c'est facile, d'augmenter leur production de pétrole et de gaz, dont le français Total Energy. Ça veut dire que on explique aux gens, vous avez un grand mur en face, là, on va s'écraser sur ce mur, et certains qui sont au volant, on peut parler des politiques aussi, si tant est qu'ils tiennent le volant de quelque chose, on va s'écraser. On accélère aujourd'hui. Comment vous le vivez, vous qui constatez au quotidien ce type de mutations de la planète qui sont finalement existentielles pour l'Homo sapiens? Est-ce pas un peu désespérant de voir tous les jours la catastrophe arriver à plus grande allure, et catastrophe de plus en plus importante, de le dire, de l'expliquer et de constater que ça glisse comme l'eau sur les plumes du canard?
Bien sûr, si c'est toujours un peu frustrant de tenter d'expliquer, de faire comprendre l'ampleur du problème en fait aux autres. En tout cas, le pétrole, pour rebondir dessus, c'est une drogue de l'espèce humaine, hein, généralement.
Une drogue du capitalisme.
Oui.
Est-ce que c'est... le capitalisme a besoin de... Alors, on peut mettre d'autres systèmes économiques. Il y en a eu d'autres qui n'étaient pas le capitalisme à l'Est. Ils ont fonctionné exactement pareil. Hein. Donc, on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais cela étant, l'homme a besoin d'énergie pour absolument tout. Et aujourd'hui, sans cette énergie, au moins celle qui provient de ces énergies fossiles, il ne sait plus vivre, manifestement.
Effectivement. Le pétrole a permis énormément de progrès. La vie qu'on connaît aujourd'hui, elle est énormément basée sur le pétrole. Tout ce qui nous entoure on ne fait pas sans pétrole, quoi. Je veux dire, la table, tout ce qui est ici, tout le matériel qu'on a pour enregistrer cette émission.
On peut parler des plastiques aussi. On a fait une émission d'ailleurs avec une sénatrice qui avait élaboré avec un collègue un rapport sur la pollution plastique. Quand on lit ce très beau travail... On est quand même impressionné, d'abord parce qu'il y a des gens qui travaillent bien et qui savent exactement, et ce sont des politiques, de quoi est fait la réalité. Pour autant, ça reste lettre morte.
Ce qu'il faudrait aujourd'hui pour respecter les accords, c'est plus aucun forage, plus aucune exploitation de nouveaux puits de pétrole ou de charbon, etc. Il ne faudrait plus en ouvrir aucun.
Aucun, ce qui n'est pas le cas, puisque on vient de le dire, les 8 plus grandes compagnies ont un plan de marche qui est tout à fait public et dans lequel on voit très bien qu'ils vont poursuivre et développer ce type d'exploitation. Donc, on continue à aller dans le mur. Quand on nous parle, par exemple, et je voulais en dire un mot, il y avait un article sur le Canard enchaîné là-dessus, qui s'appelait « Pour décarboner le trafic aérien, rasons des forêts ». On est en train d'essayer d'imaginer des biocarburants, puisque le transport aérien, c'est quand même Philippe, qui est un spécialiste, mais vous aussi, je crois, est responsable de 2,6% des émissions mondiales de CO2. Hein, Philippe, vous qui êtes notre spécialiste aéro à la radio, vous n'allez pas me dire le contraire. Et on va mettre en France un certain nombre d'unités industrielles de production de biokérosène en marche. Le problème, c'est qu'il va falloir beaucoup d'électricité, il va falloir beaucoup d'eau, hein, pour transformer l'eau en hydrogène. 7,7 millions de mètres cubes vont être pompés dans le Gave de Pau, par exemple, dont on sait que 3,9 millions seront relargués dans ce même Gave. Alors vous allez me dire, c'est magnifique, ça revient d'où c'est parti. Oui, mais ça va revenir à haute température, jusqu'à 28 degrés centigrades. Donc je ne pense pas que les saumons du Gave de Pau vont beaucoup apprécier. On parle aussi d'usines à partir de la biomasse. On va quand même prélever, pour faire ce biocarburant, on va prélever l'équivalent de 1700 hectares de forêt. Donc ça veut dire abattre un peu plus d'1 million d'arbres par an, alors que par ailleurs, on dit qu'il faut préserver ces forêts pour des raisons évidentes. On a très légèrement effleuré le sujet tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on préfère ? Préserver les forêts ou faire voler des avions et continuer à aller dans le mur ? Philippe, un mot là-dessus peut-être, non ?
Je dirais, Jacques, je vais venir un peu dans l'ambiance de votre émission « Ça va mieux ». Moi, je pense que le problème de fond, c'est quand même la prise de conscience de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire ce qu'il voit, ce qu'il observe. Les avions aujourd'hui, s'ils fonctionnent, c'est parce que derrière, il y a des personnes qui continuent de vouloir prendre l'avion, et je dirais, sans aucune retenue. C'est de même pour la voiture. Il suffit de voir dans notre région toulousaine l'intensité du trafic automobile sur le périphérique. Je vais être un peu brutal, mais tout le monde s'en fout.
Hein. Totalement, oui.
Voilà.
C'est-à-dire qu'intellectuellement, tout le monde pense cela, mais quand il s'agit de passer à l'action, et soi-même d'ailleurs de payer de sa personne, tout le monde s'en fout.
Il n'y a plus d'action. Et donc, en fait, moi, ce que je voudrais dire par rapport à cette question de l'avion, je ne vais pas revenir sur les données que vous avez exprimées. Je crois qu'il faut quand même qu'on évite à faire de cette problématique, certes, qui existe, de l'avion. Et je veux faire une comparaison avec la notion de bruit, le bruit que nous avons beaucoup combattu sur les aéroports, tant par les trajectoires, tant par les avions eux-mêmes, l'évolution des avions. À l'époque, j'ai passé une dizaine d'années sur l'aéroport de Toulouse. Eh bien, on parlait du bruit. Nous étions confrontés à ce bruit. Et nous allions à Toulouse, moi à Toulouse, vous alliez sur une place, et là, jusqu'à 5 heures du matin, vous aviez le bruit de... Et tout le monde, excusez-moi d'être brutal, mais tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'on regarde l'avion parce qu'on le voit, mais par contre, tout le reste, on le voit, mais de manière extrêmement dispersée, et c'est là le problème que nous avons aujourd'hui. C'est la prise de conscience. Je suppose que notre invité Alexandre, j'ai nul doute sur le fait qu'il fait beaucoup de vélo. Je me trompe ?
Non, effectivement, oui. Il est très
courageux d'en faire à Toulouse, mais bon.
Après, j'ai une petite demi-heure pour aller travailler le matin et une demi-heure pour rentrer. Bon, du moment qu'il y a les équipements et les infrastructures qui sont en place, je pense qu'il y en a beaucoup qui franchiraient le cap. Il y a aussi le problème de la volonté personnelle, des citoyens. Il y en a beaucoup qui aimeraient prendre le vélo, mais qui forcément ne trouvent pas le chemin très, très sûr. Alors maintenant, avec les vélos électriques, ça commence quand même à se diversifier.
Toulouse est une ville dangereuse quand on roule en vélo. Si on va, par exemple, en Hollande, même sans aller si loin, à Barcelone, il y a des pistes cyclables. Les pistes cyclables, ou une politique du vélo, ça revient à... On peut le résumer en RSR, hein, c'est le slogan des spécialistes. R, d'abord, ça veut dire réduction du volume des voitures. Ça, on va finir par y arriver. S, très important, la séparation de la voie, une séparation balisée et protectrice entre les voitures et les vélos. Et le dernier R, c'est réseau, parce que si vous avez une piste cyclable, même très bien protégée, qui roule sur, si je puis dire, sur 300 mètres, c'est bien. Mais R, c'est réseau. Il faut qu'il y ait un réseau qui permette de se déplacer complètement, totalement en sécurité d'un point à un autre. RSR, nous n'avons absolument pas ça ici, et nous ne l'aurons jamais, puisque manifestement, les politiques, à part faire de la peinture au sol, tout le reste, ils s'en moquent. Donc, comment peut-on pousser les gens à quitter la voiture et aller au vélo ou au transport en commun? C'est très compliqué. Ce matin, j'ai un ami, je l'appelle, il était sur le quai d'une gare à Montauban. Il attendait son train pour Paris, qui avait déjà 25 minutes de retard. Le temps que nous parlions, parce qu'on est très bavards tous les deux, ça faisait 40 ou 45 minutes. Comment expliquer aux gens qu'il vaut mieux qu'ils privilégient le train, qui est plus cher que l'avion, qui au surplus est quelquefois en grève, souvent pourrait-on dire, ou qui a des retards phénoménaux. Enfin, on marche sur la tête, on ne fait rien de ce qui devait être fait pour sauver l'espèce humaine. C'est un peu un raccourci un peu brutal, mais globalement, ça revient à ça, non Alexandre ?
Il y a des problèmes, après, je pense que pour qu'il y ait une prise de conscience quand même qui émerge, enfin, elle a déjà émergé, je veux dire, hein, on voit quand même pas mal de manifestations sur le climat, etc. Mais à mon sens, ce qui est important aussi, c'est de sensibiliser les gens. Évidemment, chacun doit faire sa part, il y a aussi le rôle des politiques qui est extrêmement important, mais il faut que chacun ait conscience que toutes ces actions quotidiennes ont un impact sur le climat et quel impact ça peut avoir. Parce que je pense que tout le monde ne se rend pas forcément compte de l'impact que peut avoir telle ou telle action au quotidien. Donc pour ça, sensibiliser les gens, il y a différents moyens pour ça. Il y a un outil qui marche très bien là, depuis quelques années, qui est la fresque du climat, par exemple.
Oui.
Qui consiste avec un jeu de cartes à faire comprendre aux gens de façon ludique les causes et conséquences du changement climatique. Eh bien, quand on a compris le problème, on peut au moins essayer de penser les solutions. Mais tant qu'on ne l'a pas compris, je pense qu'on est déjà très loin de l'action. Et puis, le premier pas, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe et aussi de voir quelle est notre empreinte sur le
climat. On est surtout très nombreux, ça on l'avait bien croisé et multiplié, ça on avait bien compris, mais aujourd'hui, plus on sera nombreux, plus l'impact écologique de chacun pèsera sur la planète, même si nous faisons énormément d'efforts, tous, ce qu'il n'arrivera jamais, puisque sensément, ça me paraît très difficile. Alors moi, je voudrais revenir au climat et dans l'histoire, parce que ça fait quand même longtemps qu'on bouleverse le climat et que nos actions impactent ce fameux climat. J'ai lu un fabuleux bouquin qui est très intéressant, s'appelle Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre. Ça a été écrit par un géographe qui s'appelle Christian Grataloup, Et c'est aux éditions Les Arènes. Et alors, dans ce livre qui est extrêmement renseigné, qui nous ouvre des horizons, si je puis dire, sur l'histoire intéressante, il nous parle de la conquête de l'Empire Inca, 1531. Déjà, hein. Donc Francisco Pizarro et Diego de Almagro, ils étaient 180 hommes et 37 cavaliers. Ils débarquent et qu'est-ce qui se passe? Ils vont éradiquer à peu près 90% de la population des Incas, un peu moins sur le Mexique, mais globalement, il va plus se retrouver personne là-bas. Alors, c'est pas eux qui l'ont fait, c'est pas eux directement, si je puis dire, par les armes. Simplement, ils ont amené des virus. Notamment le virus de la variole, contre lesquels les locaux n'étaient absolument pas prémunis. Ce qui fait que les pandémies ont complètement ravagé les pays et ce choc microbien a été aussi écologique. Parce que l'effondrement de la population n'a jamais été compensé par l'immigration de quelques poignées de colons ou d'esclaves. Et donc ça a produit une déprise écologique importante. De vastes territoires qui étaient juste là, cultivés par tous ces gens, bien au-delà d'ailleurs de l'emprise espagnole, dans les grandes plaines du Nord, aussi bien que dans le cône Sud et au midi du tropique du Capricorne, vont être complètement abandonnés. Et on va retourner à la forêt. Et donc la déprise humaine a causé le retour de l'arbre en Amazonie. Parce que l'Amazonie, c'est pas forcément une forêt primaire. Hein. Et donc, au XVe siècle, l'activité agricole y était forte, et d'un coup, elle s'écroule. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer une baisse de la concentration en CO2 à cause de ces immensités qui s'étaient recouvertes d'arbres. Et c'est très net, on le voit dans les glaces, vous savez, enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, Alexandre, les fameux carottages de glace qui permettent de nous révéler beaucoup de choses. Et entre 1520 et 1610, eh bien, une baisse des températures substantielle a été provoquée par cette conquête de l'Amérique. Et ça a été un facteur d'aggravation du petit âge glaciaire, comme vous le savez. Donc déjà à l'époque, cette première mondialisation a impacté fortement le climat et sur toute la planète. C'est curieux quand même.
Alors en fait, on parle souvent de l'époque pré-industrielle comme référence à partir de laquelle l'homme a eu un impact sur le climat. Mais si on est pointilleux, si on est rigoureux, en fait, dès que l'homme s'est sédentarisé, donc je parle après la dernière période glaciaire, hein, donc là je remonte à plus de 11 000 ans, où il a commencé, donc le climat était, après l'ère glaciaire, est devenu chaud, est devenu stable, et donc l'homme s'est sédentarisé parce qu'il a pu commencer l'agriculture. Et en fait, dès que l'homme a commencé l'agriculture, eh bien il a eu forcément un impact qui a pu être mineur, il était vraiment négligeable. Mais dès lors qu'on commence à remplacer des forêts par des prairies, de champs de culture, etc., eh bien, on a un impact sur les conditions locales. On a l'albédo, c'est-à-dire le pouvoir réfléchissant qui se modifie. On a les circulations, on a de l'eau qui se modifie. Donc, on a pu avoir un impact dès le début de l'agriculture humaine, en fait. Mais un impact qui était négligeable. Aujourd'hui, on est passé à une autre échelle, évidemment, dont l'impact est beaucoup plus significatif. Mais fondamentalement, l'homme a commencé à modifier le climat depuis déjà pas mal d'années.
Et donc, plus il se multiplie, plus il modifie le climat, et c'est exponentiel.
Voilà.
On va pas finir trop pessimiste, hein, parce que si on suit ce raisonnement jusqu'au bout, accélération exponentielle de l'impact de l'homme, l'impact extrêmement négatif, voyez où ça peut nous conduire. Philippe.
De vous poser une question, Alexandre. Lorsque vous faites des prévisions en météorologie, et d'ailleurs, je trouve qu'elles sont très bonnes, il y a de très bonnes prévisions, je pense qu'il faut le dire, elles sont basées sur un historique de données. Est-ce que cet historique de données, compte tenu de cette évolution très rapide que vous venez de nous citer, en particulier celle pas plus tard du 17 juin, est-ce qu'elle vous arrivez à vous mettre au diapason de cette évolution très rapide dans l'exploitation des données pour prévoir?
Alors la prévision météorologique est différente de celle du climat, dans le sens où, Alors, je vais reparler un peu de ce qu'avait évoqué Jacques tout à l'heure, l'effet papillon, hein, qui a été évoqué par Edouard Lorenz, qui concerne la météorologie et qui dit qu'en fait, la prévision de la météorologie, elle est extrêmement sensible aux conditions initiales. C'est-à-dire que l'évolution dans les quelques jours à venir, elle dépend totalement de les évolutions à l'instant où on démarre la prévision. Et c'est pour ça, entre autres, que comme on n'a pas une connaissance parfaite et qu'on n'aura jamais une connaissance parfaite des conditions très précises dans chaque coin, chaque molécule d'air, on n'aura jamais la possibilité de faire une prévision au-delà de 10 à 15 jours, puisque ça va donner des résultats complètement faux. Par contre, les prévisions, les projections climatiques, là, ça ne dépend pas des conditions initiales. Parce qu'en fait, on a des forçages qui vont être de grande échelle et qui vont avoir... l'effet chaotique va être lissé, entre guillemets, quoi. Donc, la prévision météorologique, en fait, est indépendante de la projection climatique. Puisqu'il suffit de savoir aujourd'hui quel temps il fait un peu partout sur la planète pour avoir une prévision météo pas trop mauvaise, on va dire, à l'échelle de quelques jours. Voilà. Mais il n'y a pas de... Alors, évidemment... l'état initial fait que, on peut quand même prévoir, par exemple, une canicule, des niveaux de température de l'ordre de 40 à 45 degrés. Mais c'est ce que va donner la prévision météo. Mais replacé dans un contexte climatique, on sait que ces situations météo-là vont être favorisées dans un climat qui change. Voilà.
Alexandre Floutard, le temps passe très vite. Vous voyez, on n'a même pas fait notre traditionnelle seconde pause musicale et on en arrive à nos rubriques de fin d'émission. Alors, j'essaye toujours, et c'est extrêmement compliqué, d'annoncer quelques nouvelles positives parce que nous avons été, vous n'avez pas manqué de le remarquer, un peu négatif sur tout ce que nous avons dit. Mais enfin, nous n'avons fait que relater des faits. Alors, un ça va mieux. J'en ai même deux. Le premier, vous allez me le confirmer, le trou dans la couche d'ozone, il semblerait qu'il se soit à peu près comblé.
Alors, il est en voie de comblement, effectivement. Alors oui, c'est quelque chose de positif et donc qui fait suite au protocole de Montréal, je crois, qui avait interdit donc la production de ces gaz qu'on appelle les CFC, les chlorofluorures carbone, qui détruisent la couche de gaz d'ozone qu'on avait à haute altitude. Et donc, la suppression des émissions de ces gaz fait que, par tous les pays du monde, hein, maintenant c'est interdit dans le monde entier, donc fait que, au fur et à mesure, la couche d'ozone va se reconstituer. Ça va encore prendre quelques années, mais c'est en voie d'atténuation. Donc, ça montre quand même que, quand la planète se met d'accord sur un effort à faire, on arrive quand même à un résultat positif.
Voilà, c'est possible, mais il faudrait peut-être que nous y mettions tous et surtout que nos politiques ne pensent pas systématiquement à la réélection avec des programmes creux, mais voient à un peu plus loin, une vision un peu plus lointaine. Alors, deuxième bonne nouvelle, c'est la loi sur la restauration de la nature qui a été adoptée. Bon, certes, in extremis, c'est grâce à l'Autriche, mais qui a été adoptée. C'était le texte clé du pacte vert européen qui prévoit la remise en état de 20% des terres et des mers de l'Union européenne d'ici 2030. Ça n'a pas été simple pour le voter, mais c'est voté. On va voir ce que vont en faire aujourd'hui les États, parce que le processus se poursuit. Et citons juste la chargée des questions de biodiversité de la WWF qui a dit « Sabine Limans, restaurer la nature va nous aider à être plus résilients face aux effets du changement climatique, à nous protéger des inondations et des sécheresses, à faire en sorte que l'on puisse continuer à avoir une agriculture productive à long terme ». Elle parle comme un livre, espérons que sa vision soit la bonne, même si on peut être très légèrement sceptique. On termine par le conseil culturel, qui sont souvent des conseils de lecture. Alexandre, qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Écoutez, je parlais de sensibilisation tout à l'heure. Il y a énormément de livres sur le changement climatique, il y a pléthore, mais j'en ai sélectionné deux que je trouve particulièrement bien. Le premier, donc, il s'agit d'un livre qui permet de prendre conscience, de comprendre, qui s'appelle « Tout comprendre ou presque sur le climat », qui a été écrit, co-écrit par Bonpote, Anne Nobresse et Claire Marc aux éditions du CNRS, et qui permet, en une vingtaine de chapitres très courts, de vulgariser un peu tous les phénomènes climatiques et de comprendre d'où ça vient, quelle attribution on peut en faire, à quoi on va pouvoir s'attendre. Tout ça de manière très vulgarisée, très bien dessinée et donc accessible au grand public. Et le deuxième livre dont je voulais parler, qui est sorti un peu plus récemment, il est un peu plus gros, hein, mais c'est une bande dessinée qui a été réalisée. Donc un livre coécrit par Iris Amatadion et Xavier Henrion qui s'appelle Horizon climatique, rencontre avec 9 scientifiques du GIEC. Donc en fait c'est une sorte d'interview de ces scientifiques qui expliquent sous forme de BD, mais avec des illustrations très sérieuses et issues du dernier rapport du GIEC. Et tout ça est extrêmement bien dessiné et relaté. Et donc, pareil, hein, accessible au grand public, et ça permet de bien lire ça et de se faire une idée quand même assez, assez précise sur les phénomènes climatiques, ce qu'on peut faire aussi en termes d'atténuation, d'adaptation, parce qu'on a beaucoup parlé des conséquences, mais il y a aussi le volet adaptation et atténuation qui est important. Et donc voilà, donc c'est un livre qui je trouve assez, assez pédagogique et puis qui interviewe surtout, qui fait référence à des scientifiques qui ont participé au rapport du GIEC.
Alors, j'avais pensé à celui-là, mais donc vous nous en avez parlé, c'est parfait. Moi, je voudrais vous citer quelques ouvrages aussi de vulgarisation beaucoup plus large, puisqu'il aborde les problèmes météo, mais pas que. C'est l'Atlas de l'Anthropocène, qui a été fait par François Gémen et Alexander Rankovic, avec l'atelier de cartographie de Sciences Po, hein. Un atlas qui va permettre au lecteur de comprendre pourquoi il faut peut-être faire preuve d'un peu plus d'humilité et qu'il comprenne qu'on va ni dominer, ni maîtriser, ni posséder la Terre. Il y a également Bruno Latour qui, de son vivant, avait participé à cet ouvrage. Je vous recite également... je vous recite celui dont je parlais tout à l'heure, Géohistoire de Christian Grataloup aux arènes, qui va vous permettre de comprendre un peu toute cette évolution humaine et sur le plan historique et sur le plan géographique, est vraiment un livre qui m'a personnellement enthousiasmé. Et puis tiens, je vais citer un livre qui est sur la table, mais parce que nous allons l'aborder dans l'émission Economica tout à l'heure. Fabuleux bouquin aussi pour que vous compreniez un peu comment on nous enfume. Ça s'appelle « La croissance verte contre la nature, critique de l'écologie marsande ». C'est d'une économiste, mais qui connaît extrêmement bien les problèmes de la nature. Elle s'appelle Hélène Torgemann et c'est aux éditions La Découverte. Voilà, bien, on aurait eu certainement beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire, mais vous connaissez le chemin maintenant, Alexandre Floutard, c'est la troisième fois que vous venez dans ce studio, donc peut-être qu'il y en aura une quatrième pour continuer à aborder ces thématiques aussi passionnantes qu'essentielles pour l'Homo sapiens. C'était Arcania, une émission de Jacques Lavergne. Merci Alexandre.
Merci.
Merci à Léo Touroult qui était aux manettes. Merci à Philippe Trousselard qui est venu m'épauler. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt pour une nouvelle émission d'Arcania. Et surtout, ne lâchez rien.